Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Je suis certain que le crime que je vais vous raconter aujourd'hui est quelque part coincé dans votre mémoire. Comme une affaire incroyable, assez récente. Les faits datent de 2006. C'est une histoire de pirates qui, comme toutes les histoires de pirates, se déroule en pleine mer, au large du Portugal, en plein été. Deux oseaux, qui s'appellent Thierry Bey et Corinne Caspar, s'emparent d'un beau voilier pour voguer vers une nouvelle vie. Et le skipper? Ah, le skipper, ils l'ont tué, bien sûr. Les pirates, en général, n'ont pas d'état d'âme. Il y a aussi une histoire dans l'histoire. Les oseaux sont-ils frères et sœurs? Ou sont-ils amants? Ou sont-ils les deux à la fois? L'une des plus belles affaires, en tout cas, qu'il m'ait été donné de vous raconter. Bey et Caspar, les pirates, c'est une histoire que j'ai écrite pour vous avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1.
Cette histoire débute au matin du mois d'août 2006, le 17 août exactement. En pleine mer, au large du Portugal. Le Cap São Vicente, ça vous dit quelque chose? C'est au sud du Portugal, à la hauteur de Faro. Il est 9h du matin, la mer est déchaînée. La tempête a soufflé toute la nuit et soudain, le commandant d'un cargo espagnol aperçoit au milieu de la mer démontée la coque d'un voilier qui émerge. Un trimaran manifestement qui a chaviré, qui s'est retourné. Et tout à côté, ballotté par les vagues, comme des bouchons de liège, il y a deux personnes qui font des signes désespérés. Ni une ni deux, le commandant stoppe les moteurs. Il se rapproche comme il peut et il leur fait jeter des bouées et une échelle. Ouf, ils sont sauvés. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Ils racontent que leur voilier, l'Intermezzo, un trimaran de compétition de 14 mètres, a chaviré 3 heures plus tôt, à l'aube, vers 6 heures. Et ils grelottent. L'eau est glacée dans ces coins-là, même au mois d'août.
Comment vous appelez-vous?
Thierry. Thierry Bey.
Et quel âge avez-vous?
J'ai 51 ans.
Et vous, madame?
Corinne Caspar. J'ai 47 ans.
Ils sont manifestement en hypothermie. Il leur faut un médecin et vite. Le bateau pourrait faire demi-tour, mais ça prendrait trop de temps. Le commandant a prévenu la police maritime au Portugal.
Entendu. Conservez votre position, nous vous envoyons un hélicoptère et une vedette. Bien reçu?
L'opération d'élitreuillage dure une heure, dans un océan plus démonté que jamais. Mais ça y est, ils sont sauvés et conduits tout droit à la base militaire de Figo Maduro, à Lisbonne, où ils sont pris en charge par des médecins et placés en observation. Rien de grave au final, en quelques heures ils sont sur pied. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais la police débarque à l'hôpital. Les policiers ont des questions à leur poser sur les circonstances de l'accident. Normal. On a déclenché pour eux une grosse opération de secours qui a coûté une petite fortune. Les autorités veulent savoir ce qui s'est exactement passé. C'est Corinne qui raconte. Elle ne parle pas portugais, mais elle parle espagnol. Elle raconte la nuit à lutter contre les vents violents, le chavirage, les heures passées dans l'eau à attendre et surtout... Elle dit un truc énorme.
On ne savait pas naviguer. On ne connaissait pas la mer. On ne savait pas manœuvrer.
Les policiers portugais hallucinent. Mais qu'est-ce que c'est que ce duo de bras cassés? Et ils comprennent juste après quand Corinne dit
« Comment est-ce André ? Comment est-ce André ?»
André ? Les policiers comprennent alors qu'ils étaient trois sur ce bateau. Et donc, il en manque un. Et que donc, le sauvetage n'est pas terminé. Que le troisième homme, c'est André. Et peut-être toujours à bord, prisonnier de la coque. Et qu'il faut donc retourner sur zone. Quelques minutes plus tard, une vedette rapide s'élance vers le large à la recherche de l'Intermezzo. Les sauveteurs mettent un peu de temps à retrouver le bateau qui, forcément, a continué de dériver. Et puis, ils finissent par le localiser, la quille en l'air.
Y a quelqu'un? Y a quelqu'un?
Pas de réponse. Pendant ce temps à terre, l'interrogatoire se poursuit. les sauveteurs apprennent qu'en fait, les deux rescapés sont frères et sœurs. Allez savoir pourquoi, à un sixième sens probablement, ils décident de les interroger séparément. Et voilà ce que dit Corinne.
Voilà, on a rencontré André Le Floch il y a quelques jours. On a sympathisé, à une terrasse de café à Olao. Et puis il nous a proposé une croisière à bord de son bateau. On a accepté. C'était un homme très sympathique et amical.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle raconte juste après.
On a pris la mer le 15 août, mais il faut que je vous dise, hein, le lendemain soir, André, il a changé de visage. Je suis entré dans sa cabine et il m'a dit « Maintenant, tu vas payer ta croisière. » Il a voulu me forcer à coucher avec lui.
Elle dit qu'après, son frère Thierry est arrivé, qu'il a voulu protéger Corinne et que l'autre, André, a sorti un couteau. Qu'il a pris Thierry, qu'il lui a baissé le pantalon de force et qu'avec le couteau, il a menacé de lui couper un testicule. Corinne dit que pour protéger son frère, elle a assommé André, qu'il s'est effondré et qu'après, avec Thierry, ils l'ont ligoté.
On n'a fait que se défendre. Se défendre.
Le problème, c'est qu'après le vent s'est levé, le voilier était en pilotage automatique, ils n'ont pas su quoi faire. Voilà. Et Thierry, qu'est-ce qu'il dit Thierry puisqu'ils sont interrogés séparément? Eh bien, il ne dit rien. Il refuse de parler. Et à un moment donné, il essaye de se faire la belle.
Oh! Vous allez où comme ça, monsieur Bey? Je cherchais les toilettes. Mais depuis votre chambre, vous êtes déjà passé devant au moins 5 blocs sanitaires.
Cette tentative de fuite, c'est bien la preuve que ce garçon a quelque chose à cacher. C'est ça que les policiers ont conclu. D'autant qu'ils les ont vus tous les deux, juste avant l'interrogatoire, se parler en français en faisant des grands gestes. Ils n'ont pas compris ce qu'ils se disaient, mais est-ce qu'ils n'étaient pas en train de se mettre d'accord sur un scénario?
Tu n'as qu'à dire qu'il a voulu te violer. Et c'est pour ça qu'on l'a ligoté.
Le lendemain, les sauveteurs portugais retournent en mer à la recherche de l'intermezzo. Ils ont emmené avec eux des plongeurs. Et une fois le voilier localisé, les plongeurs descendent le long de la coque. Arrivés au niveau d'un hublot, ils scrutent l'intérieur avec une lampe torche. Et au milieu de toutes sortes d'objets qui flottent, ils aperçoivent un corps, ficelé comme un rôti. Corinne n'avait pas menti. Il est alors décidé de remorquer l'intermezzo jusqu'à la côte. C'est périlleux, le trimaran cul par-dessus tête peut se casser en deux à tout moment et dans ce cas-là, on perdrait le corps qui flotte à l'intérieur. Mais bon, ça dure des heures, mais finalement, le bateau arrive au port. On le remet tout droit, la tête en l'air, et les policiers portugais pénètrent dans la cabine. Et ils tombent sur le corps d'André Le Floch. Comme l'avait dit Corinne Caspar, il est ficelé de la tête aux pieds, avec un bout de couleur bleue. Mais ce qu'elle avait omis de dire, ce qu'elle avait opportunément oublié de signaler, c'est que le corps est lesté, avec une ceinture de plongée de 8 kilos et avec des ancres. Et c'est pas tout. Les doigts de sa main droite sont scotchés entre eux, comme si on avait voulu qu'il ne puisse pas se détacher. Quant à la tête, elle est recouverte d'une capuche de plongée. Et là, c'est plus la même histoire. C'est plus l'histoire d'un type qui a voulu violer une pauvre femme et qui a fini par l'assommer et le neutraliser. C'est l'histoire d'un cadavre qui est lesté pour que jamais, jamais, il ne remonte à la surface. Bref, c'est l'histoire d'un meurtre. Et donc, dans la foulée, Thierry Bey et Corinne Caspar sont inculpés et sommés de s'expliquer. Qu'il y ait une tentative de viol ou pas, ça ne change rien. Le saucissonnage et la ceinture de plomb autour du cadavre suggèrent qu'on a voulu tuer André, qu'on a voulu le noyer. Auquel cas, c'est un assassinat. Mais bien sûr, la tentative de viol serait une circonstance atténuante, si c'est vrai. Alors André Le Floch a-t-il un passé de violeur? En tout cas, il n'a pas de casier. Il n'a jamais fait l'objet ni de soupçons, ni de poursuites, ni d'accusations, aucune. Et sa famille, interrogée par la police portugaise, tombe de l'armoire.
André? André est un homme si gentil. Il n'aurait jamais pu faire ça.
Thierry Bey et Corinne Caspar sont réinterrogés. Ils s'en tiennent à leur scénario. Oui, ils l'ont ligoté, Mais au moment du naufrage, il était vivant. Ils ne l'ont pas tué. Quand ils sortent de chez le juge, qui vient de les inculper, les journalistes sont là. Cette histoire les intrigue. Il y a même un journaliste de Paris Match qui leur pose des questions, comme ça, à la volée. Et les deux autres répondent.
Aidez-nous ! Aidez-nous ! Nous sommes innocents !
À un moment, Thierry Bey enjambe même le cordon de police pour s'approcher des reporters.
Nous sommes victimes d'une erreur judiciaire. La police portugaise ne nous a pas autorisés à voir le consul de France.
À la fin, il faut les brusquer un peu pour les pousser tous les deux dans la voiture qui les conduit à la prison. Les policiers portugais sont furieux, car les deux ont menti. Ils ont vu le consul de France, bien entendu. C'est leur droit. Le Portugal n'est pas une république bananière. Ils mentent pour se faire passer pour des victimes au regard de l'opinion. Et il n'y a pas que là-dessus qu'ils mentent. Depuis le début, ils disent qu'ils sont frères et sœurs. Pourquoi pas ? Sauf que les policiers portugais vérifient, via l'état civil français, c'est un mensonge éhonté. Ils n'ont aucun lien de parenté. Et la chose est confirmée par la mère de Corinne. Thierry n'est pas son fils. Alors comment ces deux zozos ont-ils pu imaginer une seconde que ce bobard survivrait à l'enquête ? Et d'ailleurs, quel intérêt ont-ils à se faire passer pour frères et sœurs si ça n'est pas la réalité ? Du côté de l'enquête, on commence à se dire qu'ils sont cinglés. Cinglés, c'est tout. Le juge demande, comme c'est l'usage, une enquête de personnalité. Corinne est née à Rabat, au Maroc, en 1958. Elle s'est mariée et puis elle a divorcé. Elle a un enfant, mais c'est le père qui en a la garde, en Espagne. Elle vit avec sa mère, dans les Cévennes. Elles ont là-bas un petit atelier de céramique. Elle bricole, quoi. Thierry, lui, c'est un enfant adopté à l'âge de 2 ans, à Pornic, en Loire-Atlantique. Il a 2 filles. Il a un petit casier judiciaire pour des vols d'accessoires automobiles. Et détail intéressant, il a fait son service dans la Marine nationale, figurez-vous. Mieux, à une époque, il a eu son propre voilier. Lui qui prétend maintenant ne pas avoir le pied marin et ne rien connaître à la manœuvre des bateaux. Quand il dit qu'il n'a pas le pied marin, qu'il ne connaît rien aux bateaux, que c'est pour ça qu'ils ont fait naufrage, il ment, une fois de plus. Du côté de l'enquête elle-même, on cherche maintenant à reconstituer le début de cette histoire. Comment sont-ils montés à bord de ce bateau ? Comment ont-ils rencontré André Le Floch ? Ils disent qu'ils ont fait connaissance à la terrasse d'un café de Olhão. C'est un petit port au sud du Portugal, pas très loin de Faro, dans cette région qu'on appelle l'Algarve. Les policiers portugais y vont, bien sûr, en se disant que le bateau, l'Intermezzo, n'a pas pu passer inaperçu. C'est un trimaran de belle taille qui s'avère avoir fait la route du Rhum en 1982. Il doit bien y avoir des voileux qui les ont vus, ensemble ou séparément. On se parle dans les ports, même entre vieux loups de mer. On boit des coups, on s'échange des tuyaux. Et assez vite, les policiers retrouvent un ami d'André Le Floch, un certain Guy Cali, français comme lui. Et d'emblée, il est d'accord pour coopérer.
Vous savez comment il a rencontré Corinne et Thierry ? Oh ben oui, dans mon souvenir, je crois que c'est elle qui l'a abordé. Seule ? Ah oui. André m'a dit le soir même qu'elle était seule. Elle est venue lui parler à la terrasse d'un café. Il n'a jamais évoqué l'autre, ce Thierry dont vous me parlez ? Non. Elle était toute seule. Et qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette rencontre avec cette fille ? Il disait que c'était une belle rencontre, qu'elle était sympa, que c'était rare de rencontrer des gens comme ça. C'était donc quelqu'un de sociable. Ah oui. Bon, il avait tout quitté pour acheter ce bateau. Des vieux loups de mer comme lui, ça aime la solitude, mais il aimait bien faire des rencontres, hein. Oui, c'était quelqu'un de sociable.
La suite de l'interrogatoire est plus intéressante. Les policiers poursuivent l'interrogatoire de ce témoin qui dit être un ami d'André, la victime.
Vous pensez quoi de cette affaire, monsieur Cali ? Moi, écoutez... Moi, je pense qu'elle a repéré le bateau, hein, avant d'aller lui parler. Voilà ce que je pense.
Elle a vu qu'il avait un beau bateau, elle l'a suivi à la terrasse du café, et elle l'a embrouillé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, monsieur Cali? Bah, la veille du départ. J'étais là, quand elle est allée déposer quelques affaires. André lui avait proposé une petite balade de 3 jours. Elle avait des affaires pour 15 jours, et puis je me souviens, hein. Je lui ai proposé de rester dîner avec nous. Elle a refusé. Je lui ai posé quelques questions pour savoir d'où elle venait, qui elle était, quoi. Je l'ai trouvée fuyante. Elle m'a pas répondu. Elle était bizarre, quoi.
L'ami dit aussi que le lendemain, quand il a vu l'intermezzo se préparer à quitter le port, il a eu comme un mauvais pressentiment.
Je peux pas vous dire d'où ça venait, hein. J'ai rien dit à André. C'était pas rationnel. Mais je me suis dit que je le reverrais jamais.
Ce qui l'a intrigué le plus, c'est quand le copain de cette fille, ce Thierry-là, juste avant de quitter le port, a remonté l'ancre du trimaran. Ça se voyait qu'il savait faire. Or, Corinne avait dit qu'il n'avait jamais navigué, que c'était pour eux un baptême de la mer. Mais ça se voyait que le type n'était pas un novice. Comme le nez au milieu de la figure. C'est ça qui l'a inquiété, l'ami. Son pressentiment vient de là. Le juge d'instruction, bien sûr, a ordonné une autopsie du corps d'André Le Floch. Elle est réalisée à l'Institut médico-légal de Portimao. Et le compte-rendu du légiste est bien intéressant. Il est déterminant. 1. Il n'a pas trouvé d'eau dans les poumons d'André Le Floch. Et dans son estomac non plus. Donc, il n'est pas mort noyé dans le naufrage. Il est mort avant le naufrage. Donc, il n'y a plus de discussion. Ça referme définitivement la porte de l'accident. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et d'ailleurs, l'autopsie révèle aussi qu'André a été roué de coups. Son corps est couvert d'hématomes. Et il a le nez cassé. Donc, non seulement ils l'ont tué, mais avant, ils l'ont fracassé, torturé peut-être. Leur histoire ne tient plus du tout debout. Ce que révèle aussi l'autopsie, c'est que le saucissonnage a eu lieu après la mort. Les liens, même les plus serrés, n'ont pas marqué le corps. Alors de quoi est-il mort, André Le Floch? Le légiste a la réponse. Il est mort d'asphyxie mécanique, autrement dit, il a été étranglé. À main nue, les traces sur le cou sont sans appel. Les deux oseaux racontent n'importe quoi depuis le début. Et pourtant, Thierry Bey va démentir. Oui, j'ai bien dit démentir. Pas auprès du juge, auprès d'un journaliste, Arnaud Bizot. De Paris Match, depuis sa prison. Vous devez savoir qu'au Portugal, le système des parloirs est un peu plus souple qu'en France. En France, si vous n'avez pas de permis de visite et que vous n'avez pas pris rendez-vous, vous pouvez toujours courir pour entrer au parloir d'une prison. Eh bien, pas au Portugal. Bizot, vieux limier du journalisme, parvient à se glisser parmi les familles de détenus et à accéder au parloir et à parler à Thierry Bey. Incroyable. Et l'autre dément totalement les conclusions de l'autopsie. Il en reste à son histoire, celle qu'il raconte depuis le début.
À un moment, il m'a menacé d'un couteau. Corinne lui avait donné un gros coup sur le carafon. Il a lâché le couteau. C'est là qu'on l'a neutralisé.
Et alors, il est mort de quoi?
Oh ben, j'en sais rien, moi. Il s'est peut-être cogné la tête. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, il devait être minuit ou 1h du matin. Il était parfaitement vivant. Et comment expliquez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans ses poumons?
Là, le journaliste dit qu'il se crispe. Il n'a pas la réponse. Il dit
« J'en sais rien, moi !»
Et puis plus rien. Du coup, son démenti perd toute crédibilité. C'est à peu près là qu'intervient un rebondissement. Et ça ne se passe pas au Portugal, mais à Alicante, au sud de l'Espagne. Une semaine exactement après le naufrage. Un journaliste du Parisien, Julien Dumont, fin limier lui aussi du fait divers, y a rendez-vous avec Carole Caspar, la maman de Corinne, dans un café. et il voit arriver une vieille femme aux cheveux gris qui le salue brièvement et qui se met à parler tout de suite.
Il faut que je vous dise quelque chose.
Je vous écoute.
Je ne suis pas seulement la maman de Corinne. Je suis aussi la maman de Thierry.
Ah ! Julien Dumont ne s'attendait pas du tout à ça. Il n'aurait donc pas menti quand il disait qu'ils étaient frères et sœurs. Pourtant, elle connaît le dossier. L'état civil dément. Et c'est là que la femme lui raconte son secret. Son pauvre secret de pauvre maman. En 1955, elle a accouché sous X d'un petit garçon qui a ensuite été adopté. 4 ans plus tard est née Corinne. Mais alors, comment Thierry a-t-il retrouvé sa mère et sa sœur biologique ? Carole le raconte à Julien Dumont.
Un jour, c'était il y a 11 ans, un homme d'une 40aine d'années a frappé à ma porte. Il m'a parlé d'une analyse généalogique. J'ai tout de suite su qui il était. Je lui ai demandé quelques minutes, je l'ai présenté à mes enfants. Et à la suite de ça, il est resté 15 jours à la maison. Il nous a proposé une sorte d'utopie, celle de se réunir, de vivre comme une famille ou comme une communauté.
La suite est moins idyllique. Son fils était un manipulateur, un entourloupeur de première. Elle a fini par s'en apercevoir à temps. Il l'avait presque convaincue de vendre sa maison. Alors elle lui a demandé de partir, de les laisser en paix, quoi, de les oublier. Et c'est là que tout a basculé. Il est parti. Mais il est parti avec Corinne, sa sœur. Elle est partie avec lui, alors que la mère et la fille étaient inséparables. Elle l'a suivi, dans une vie de bout de ficelle, dans une vie de vagabond, qui s'est donc achevée par un assassinat et le naufrage de l'Intermezzo. Incroyable découverte et joli scoop pour le journaliste. Certes, ça ne change pas le cadre de l'histoire, ça reste un assassinat. Mais ça trace un peu mieux le profil des deux tueurs. Ce sont des paumés. Ce sont des paumés. Le récit de la mère au journal Le Parisien intéresse évidemment le juge portugais pour nourrir l'enquête de personnalité en vue du procès. Il ne sera pas facile de reconstituer ces années d'errance, de bohème, de petit boulot, de marginalité. L'enquête permet néanmoins d'établir qu'à un moment, le duo échoue dans un village du Gard, Rousson, dans un centre d'accueil pour les paumés dans leur genre. Là, on leur donne un cabanon. Ils choisissent le cabanon le plus isolé du campement. Le centre est tenu par un Allemand, Heinz Kelpe, qui témoigne.
C'était vraiment des gens très gentils. Mais ils ne prenaient pas part aux activités du camp. Et ils avaient leur vie à côté. Ils ne parlaient à personne. Ils ne recevaient personne. C'était un peu bizarre, hein ?
À cette époque, la mère, Carole Kaspar, a encore quelques contacts avec sa fille au téléphone. Ne vous méprenez pas. Elle est un peu babacool, la maman. Ça n'est pas la vie d'errance de sa fille qui l'inquiète, ni le fait qu'il vive dans un cabanon. Ce qui l'inquiète, c'est lui, c'est Thierry, et l'emprise qu'il a sur elle. Corinne, sa fille chérie. L'emprise. Heinz Kelpe raconte qu'au bout d'un certain temps, dans le campement de Rousson, dans le Gard, les relations avec eux ont commencé à se dégrader. Notamment quand les deux zozos sont allés se plaindre dans le journal local qu'on leur avait coupé l'électricité et coupé l'eau.
C'est absolument faux, hein ? Ils ont toujours eu le courant. Je ne leur ai jamais coupé l'eau. Je comprends pas pourquoi ils ont dit ça.
Et c'est incompréhensible, en effet. Et ensuite, Thierry s'en est pris aux occupants des cabanons voisins. Il était en conflit permanent, sur tous les sujets, avec tout le monde. Les enquêteurs apprennent aussi qu'il était en conflit avec des chasseurs du coin. Un jour, il a même agressé un chasseur avec une machette. Le chasseur a porté plainte et il a été condamné à de la prison avec sursis. Donc, un profil violent, un psychisme fragile, qui s'explique par une histoire familiale compliquée et douloureuse. Il y a autre chose dont il faut que je vous parle. Quand on interroge ceux qui les ont croisés pendant toute cette errance, ils disent tous qu'ils vivaient comme un couple. Qu'ils étaient frères et sœurs, certes, mais que c'était ambigu. Et la mère dit la même chose. C'était pas clair. C'était pas clair du tout. Au tableau, il faudrait donc ajouter un inceste, en toute connaissance de cause. C'était des paumés, je vous dis. Des paumés. Du côté de l'enquête, au Portugal, les policiers mettent la main sur le bateau-taxi qui a amené le couple jusqu'à l'Intermezzo, qui mouillait au large. Et le pilote confirme ce que le copain d'André avait laissé entendre. Le jour du départ, ils étaient chargés comme des mulets. Ils donnaient l'impression de partir pour un très long voyage et pas du tout pour une virée de 3 jours en mer. Est-ce que ça ne veut pas dire que dès le départ, ils avaient l'intention de se débarrasser d'André en haute mer et de prendre le large avec son joli bateau? Ça y ressemble en tout cas. Autre chose, on a retrouvé la voiture de Corinne et Thierry, abandonnée dans un petit village espagnol, sans plaque d'immatriculation. Signe qu'ils n'avaient pas l'intention de revenir la chercher un jour. Et puis bien sûr, comme dans toute bonne enquête, on étudie la téléphonie. Et oui, les téléphones sont les mouchards de notre vie quotidienne. Et on découvre qu'à 2 reprises, Corinne a appelé l'ancien propriétaire de l'Intermezzo pour avoir des infos sur le bateau. Alors tout ça mis bout à bout confirme l'impression qu'on a affaire à des pirates. Des pirates à l'ancienne qui ont repéré le bateau, choisi tant qu'à faire un bon bateau, qui se sont renseignés sans doute par ses coups de fil sur son âge, son passé, son entretien, et qui ensuite sont remontés jusqu'au skipper, et qui l'ont embrouillé jusqu'à se retrouver à bord, qui l'ont tué, qui avait l'intention de jeter son corps par-dessus bord quand la tempête leur est tombée dessus, et qui rêvait après de voguer vers les cocotiers. Voilà le scénario le plus plausible de cet assassinat. Un scénario qui bute sur une question tout de même. Savait-il ou non manœuvrer ce putain de bateau? Le fait que Thierry ait fait son service dans la marine, le fait qu'il ait eu un voilier à lui, lui donne-t-il la capacité de piloter un trimaran de ce calibre? Eh bien, pas sûr. Pas sûr du tout. Leur avocat, en tout cas, dit non. Le trimaran en question est un bolide. C'est pas une coquille de noix. Savoir conduire une 2 chevaux n'autorise pas à prendre tout de suite, du jour au lendemain, le volant d'une Formule 1. Et ça change la fin de l'histoire. Ils n'avaient aucune chance d'arriver sous les cocotiers. Donc sont-ils vraiment des pirates? Ce serait plutôt des pirates inconscients. Le procès a lieu devant la cour d'assises de Lagos, au Portugal, puisque ça s'est passé dans les eaux portugaises. Pendant toute leur détention, Thierry et Corinne se sont écrits tous les jours. Ils se sont promis d'être solidaires jusqu'au bout. Pour les défendre, ils ont embauché une vedette, l'avocat marseillais Gilbert Collard, qui viendra seconder l'avocat portugais Maître Villard. Mais le premier jour, point de Collard. Il est bloqué à Paris par une grève, son avion n'a pas décollé. Et Thierry dit
« Nous avons le droit à un avocat français !» Donc nous refusons que notre procès ait lieu sans lui.
Le procès est donc suspendu. À ce moment-là, Maître Villard, l'avocat portugais qui travaille pour des prunes ou si peu, jette l'éponge. Qu'ils aillent se faire voir. Et juste après, on s'aperçoit que Maître Collard n'est pas enregistré auprès du barreau de Lagos. Donc, il ne pourra pas plaider. Le procès s'ouvre finalement le 14 décembre 2007 avec un avocat commis d'office. On ne voit pas bien le bénéfice. Dans son box, Thierry Bey est bien embêté. Il comptait sur Collard pour semer le bazar. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il va le semer lui-même. À l'ouverture du procès, il annonce
« Nous cessons de collaborer avec la justice portugaise. »
Ce qui ne veut rien dire. Et qui ne jouent pas en leur faveur. Ils peuvent se taire s'ils le veulent. Ça n'empêchera pas la cour de les condamner. Mais son idée à lui, c'est de faire parler de lui, de nourrir la chronique dans les médias, de faire le spectacle, d'attirer l'attention. Le tournant du procès, évidemment, c'est le moment où le médecin légiste vient à la barre.
J'affirme qu'André Le Floch n'est pas mort en se cognant la tête. Ce que j'ai constaté sur son cou, ce sont des traces de strangulation, faites à la main, des mains larges, hein, des mains d'homme, par quelqu'un qui était forcément plus grand que lui.
Allez répondre à ça. Le verdict tombe. Ils sont tous les deux coupables de meurtre avec préméditation. Et au Portugal, ça vaut 24 ans de réclusion criminelle, chacun. S'ils avaient parlé, expliqué, probablement que l'un des deux, Corinne sans doute, aurait pris moins. Il n'y en a qu'un qui a serré le cou d'André Le Floch. Mais ils payent cher le prix de leur promesse, solidaire jusqu'au bout.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.